Décryptage. Clémentine Pavlotsky.
Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce décryptage consacré ce soir au phénomène Éric Zemmour en France. Depuis la rentrée, le polémiste d'extrême droite occupe le devant de la scène médiatique et chamboule le paysage politique de la pré-campagne pour la présidentielle d'avril 2022. Il n'a ni parti ni expérience politique, il ne s'est même pas encore officiellement déclaré candidat. Mais la plupart des rédactions et instituts de sondage le traitent déjà comme tel. Et pour la première fois, la semaine dernière, une enquête d'opinion le donne qualifié au second tour de la présidentielle, avec 17 à 18% des votes derrière le président Emmanuel Macron. Alors quel crédit accorder à ces sondages dont les médias se font la caisse de résonance? Ne contribue-t-il pas à façonner l'image d'un Zemmour présidentiable? Ne sont-ils pas tout simplement en train de fabriquer un candidat à la présidentielle? C'est ce que nous allons voir tout au long de cette émission. Nous allons décrypter la mécanique qui a permis à Éric Zemmour de faire cette irruption tonitruante sur la scène politique française, en s'interrogeant bien sûr sur le rôle des sondages et des médias, et nous verrons comment le polémiste et ses soutiens en tirent parti. Avec nous en studio, Arnaud Mercier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur en communication politique à l'université Paris 2 Assas. Et nous sommes également en ligne avec Philippe Corcuff, maître de conférences en sciences politiques à Sciences Po Lyon, auteur de La Grande Confusion, comment l'extrême droite gagne la bataille des idées, un ouvrage paru aux éditions Textuel. Bonsoir et bienvenue à vous.
Bonsoir.
Alors d'abord, Arnaud Mercier, c'est à vous que s'adresse ma première question. Éric Zemmour, aujourd'hui, c'est quoi? C'est un personnage médiatique ou un personnage politique?
C'est un personnage médiatique qui tente à essayer de transformer le capital de notoriété médiatique en un capital politique. Et c'est cette opération à laquelle on est en train d'assister. Sachant que effectivement le fait qu'il ait été rendu très visible à la télévision depuis des années, hein, et que il ait eu cette tribune à CNews pendant une heure de grande écoute, et qu'il a réussi à drainer de l'audience, hein, puisque à un moment son émission a capté plus d'audience que les autres chaînes d'information continue concurrentes à la même heure, fait que il a acquis une très forte visibilité, comme en plus il tient des propos souvent très contestables et contestés, ce qui fait qu'il est l'objet de polémiques en plus, donc on parle en plus de lui indépendamment de son émission, eh bien, il est en train de se transformer en leader politique, si je puis dire, au sens où il se dit qu'il a une carte à jouer pour son destin personnel, mais aussi pour ses idées, parce que je crois qu'il incarne très bien une partie de cette droite et de cette extrême droite qui pense que Marine Le Pen, elle est grillée et qu'il faut trouver un autre personnage, un autre trublion, peut-être même qui ressemblerait plus à Jean-Marie Le Pen qu'à Marine Le Pen.
Philippe Corcuff, est-ce qu'il y a eu des grands moments de bascule ces dernières semaines, ces derniers jours, qui ont permis justement et qui permettent d'expliquer cet incroyable buzz, cette fièvre médiatique autour d'Éric Zemmour?
D'abord, il y a eu un terreau idéologique que j'ai essayé d'analyser dans mon livre, c'est-à-dire que depuis le milieu des années 2010, il y a une certaine dynamique ultra-conservatrice autour d'un certain nombre de thèmes identitaristes, xénophobes, sexistes, homophobes, qu'incarne bien Éric Zemmour, donc dont il a été un des producteurs idéologiques. Mais jusqu'à présent, entre cette sphère idéologique, une dynamique idéologique et la sphère politique partisane, il y avait des écarts. Et donc le passage d'Éric Zemmour à la politique présidentielle, c'est une tentative de passage entre cette dynamique idéologique et l'espace proprement autonome de politique, hein, qui avait des rapports avec la première, mais qui n'était pas en complètement en congruence. Donc il y avait déjà ce point de départ, et puis il va y avoir plusieurs étapes. Il faut qu'il y ait un espace à un moment donné médiatique, où il y a un certain épuisement des manifestations anti-pass et que les médias se concentrent à un moment donné sur quelque chose. Il faut qu'il y ait une usure par rapport aux autres candidats, et notamment par rapport à Marine Le Pen, c'est-à-dire une sorte de retournement de la banalisation de Marine Le Pen pour les médias, et donc l'attrait pour quelque chose de nouveau, dont Pierre Bourdieu avait bien montré l'importance dans la dynamique médiatique, cette recherche du nouveau. Et puis, il y a une première étape importante sans doute, où il y a un premier sondage qui le donne à 11% au coude à coude avec Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon accepte un débat qui se déroule sur BFM TV. Et là, il donne une crédibilité supplémentaire au pré-candidat Zemmour, puisque là, on a un ancien candidat installé comme candidat, qui avait fait un très bon score lors de la précédente présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, qui la double d'une certaine façon. Alors lui, c'est pour des raisons autres, c'est pour essayer de remonter dans les sondages, mais ça donne un élément important et ça va, les sondages qui vont suivre vont donner Zemmour un peu plus élevé.
Mais alors justement,
et puis on va avoir un phénomène boule de neige.
Philippe Corcuff, justement, quel crédit est-ce qu'on peut accorder à ces sondages? Parce que effectivement, vous évoquiez ce sondage où il était donné à peu près 11%. Il y a quelque temps, c'était 5%. Le dernier en date, je le disais, le crédit de 17 à 18% des intentions de vote. Ces sondages, qu'est-ce qu'ils valent à 6 mois d'une présidentielle?
Les sondages n'ont jamais indiqué, contrairement à la façon dont ils sont utilisés souvent dans les médias, n'ont jamais indiqué les intentions de vote des personnes pour une élection. Ils cristallisent des opinions un peu flottantes et mouvantes à un moment donné, très marquées par les personnes dont on parle à un moment donné. Et donc c'est pour ça que on peut parler à propos de Zemmour de prophétie autoréalisatrice avec le rôle des médias. C'est parce que finalement c'est des choses assez éphémères, mais sondage après sondage, c'est pris au sérieux par les médias qui les commentent de plus en plus. Il y a un fétichisme du nombre qui fait que c'était comme si c'était des chiffres établis de vote. Et puis ces commentaires contribuent à faire monter la sauce. Etc., dans une sorte de boucle. Et donc, à partir de quelque chose d'éphémère et de pas complètement prédictif par rapport à ce que pourraient être les votes lors des présidentielles, on peut créer un phénomène qui finit par avoir de la consistance. Hein. À partir de rien, on construit quelque chose qui a une certaine consistance.
Oui, si je résume un petit peu ce que vous dites, on est face à une machine, on peut dire, sondagière qui fonctionne un peu par onde sismique. C'est-à-dire qu'à chaque nouveau sondage, on a un certain nombre de médias, la plupart des gros médias, en tout cas français, qui vont titrer sur Zemmour, alors qu'on le rappelle, a priori, aucune règles journalistiques ne les oblige à le faire. Arnaud Mercier, est-ce que ça veut dire que les sondages influencent, guident le choix des rédactions aujourd'hui?
Ah oui, mais ça c'est certain. Et ça guide même, vous savez, les choix du CSA lorsqu'il s'agit de contrôler le temps de parole, temps d'antenne, puisque le CSA édicte un certain nombre de principes qui peuvent être par exemple l'équité et la représentativité, des choses comme ça, c'est-à-dire qu'on tient compte à la fois par exemple, du poids électoral qu'on a pu avoir au Parlement avec le nombre de députés en fonction du nombre de voix qu'on avait, le pourcentage de voix à la précédente élection. Et puis quand c'est des personnalités nouvelles qui émergent, on n'a pas ça comme indicateur. Donc on tient un peu compte des sondages quand même. Et là, le problème de ces sondages, c'est qu'en fait, c'est quand même un monde virtuel que ça nous donne à voir. D'abord, il y a certains sondages dont les méthodologies ne sont pas comparables et qui expliquent pourquoi certains sondages ont quand même des chiffres qui varient quand même assez considérablement. Parce que, par exemple, vous avez un institut qui a mis seules les personnes certaines d'aller voter. Ce qui est quand même, dans un univers où la France, l'abstention est chronique, dans lequel beaucoup de gens disent hésiter jusqu'au dernier moment, etc., réduit considérablement le nombre de gens que ça représente, que c'est censé représenter par rapport à l'électorat. Et puis, on est dans une configuration, on peut rappeler que les sondages n'ont jamais indiqué à ce moment-là, Emmanuel Macron n'était pas en tête début octobre, que Lionel Jospin et Jacques Chirac en 2002 allaient être au second tour, c'était sûr et certain. Or, c'est Jean-Marie Le Pen qui a été qualifié à la place de Lionel Jospin. Enfin, on peut remonter en arrière et montrer. Mais là, en l'occurrence, il y a un vide à droite. Il faut quand même pas oublier que les gens sont sondés sur une situation complètement atypique où le candidat de droite, qui d'habitude est bien connu assez rapidement, n'est pas connu. Donc ils n'arrêtent pas de faire des « alors et si c'est monsieur machin ? Et si c'est madame truc ?» etc. C'est quand même extrêmement problématique parce qu'on demande à des gens de s'interroger dans des situations complètement virtuelles en vérité.
Arnaud Mercier, vous parliez tout à l'heure du CSA. Justement, le 9 septembre, le CSA a décidé de décompter le temps de parole d'Éric Zemmour dans les médias audiovisuels, alors qu'il n'est pas encore candidat déclaré. C'est une mesure, en tout cas, qui s'applique aux candidats. Est-ce que ça n'a pas contribué à le rendre un petit peu présidentiable, finalement? Sachant que derrière, on a eu le débat avec un candidat déclaré à la présidentielle.
Je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Je pense que le CSA était quelque part dans son rôle, en vérité. Parce que, vous comprenez, Éric Zemmour, il joue sur les deux tableaux, évidemment. Il a un pied dedans, un pied dehors. Mais il a, il y a une équipe qui est derrière lui. Il y a déjà des réseaux de soutien. Sur les réseaux sociaux, ils sont très actifs. Ils ont fait du collage d'affiches, ils ont fait du tractage, etc. Donc, ils se comportent comme candidats quand même, hein, tout en, pour l'instant, ne disant rien de certains. En plus, il y a cet obstacle des 500 signatures qu'il n'est pas certain d'avoir d'obtenir. Donc, je pense qu'il a intérêt à faire monter la sauce pour obtenir de passer ce cap des 500 signatures d'élus au niveau national. Et du coup, le CSA voyait monter quelqu'un qui était en train de potentiellement devenir un candidat, mais qui avait une tribune médiatique d'une heure tous les jours. Et donc, vous imaginez la situation de discordance avec les candidats patentés, ou les candidats en cours d'investiture dans leur parti. Ça posait quand même, en effet, énormément de problèmes. Et je pense que le CSA, à un moment, dit « Écoutez, nous, on n'interdit pas à M. Zemmour de continuer à prendre la parole, mais il faudrait quand même que la chaîne CNews ne s'affranchisse pas trop. » Parce que imaginez le stock que ça aurait représenté, des heures et des heures de temps de parole, alors que les autres candidats seraient arrivés derrière. Donc là, je pense que, quelque part, le CSA devait faire quelque chose.
Philippe Corcuff, Éric Zemmour n'a pas encore de parti politique. Qui est à la manœuvre derrière lui et comment est-ce qu'il orchestre concrètement sa communication ?
Ben, aujourd'hui, le cas d'Emmanuel Macron a mis en évidence que avec un certain affaissement des organisations politiques, avec un dérèglement, disons, du clivage gauche-droite, cette idée ancienne qu'on a besoin d'une organisation politique pour être candidat et pour gagner n'est plus tout à fait vraie. Hein. Et donc, Éric Zemmour essaye de refaire du côté de la droite et de l'extrême droite quelque chose qu'a déjà réussi Emmanuel Macron. Donc, il a simplement une série de financiers derrière lui qui assurent un minimum, des soutiens mais qui sont limités, c'est pas vraiment une organisation. Mais finalement, quand Jean-Luc Mélenchon crée la France insoumise en 2016, finalement, c'est aussi beaucoup virtuel. C'est des clics sur Internet et finalement, les troupes ne sont pas si nombreuses que ça par rapport à l'époque où Jean-Luc Mélenchon, à la précédente, était candidat du Front de Gauche et là où il y avait une série d'organisations dont le Parti communiste qui assurait un encadrement militant des choses. Donc il est dans cet élément-là, et c'est vrai qu'il bénéficie en plus de la boule de neige sondage média. Arnaud Mercier a eu raison de parler du vide à droite, c'est un lien entre vide à droite et usure, banalisation médiatique de Marine Le Pen, qui fait qu'il peut espérer créer un créneau commun entre la droite et l'extrême droite. Et donc ça, c'est un élément nouveau, hein, possible.
Et un des éléments aussi caractéristiques du traitement médiatique qui est réservé à Éric Zemmour, c'est que finalement, à chaque fois, ses apparitions dans les médias, elles sont un petit peu construites comme des moments médiatiques. Il y a par exemple eu ce débat en septembre avec Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise. C'est un débat qui a permis à BFM TV, la chaîne qu'il organisait, de faire un record d'audience, 3,8 millions de téléspectateurs. Comment est-ce qu'on peut expliquer, Arnaud Mercier, cet engouement des Français, ou cet intérêt, cette fascination, je ne sais pas comment on peut définir le phénomène, vous allez nous le dire, mais pour le personnage Éric Zemmour.
Il y a plusieurs choses. Hein. Vous savez, c'est une alchimie assez mystérieuse, il faut quand même bien le dire. Je pense qu'il y a la convergence de plusieurs points. Philippe Corcuff a commencé à énumérer ces points. Hein. Il y a l'attrait pour quelqu'un qui est justement hors système et qui n'est pas un professionnel de la politique. Ça fait longtemps que, pour ma part, je prophétise le fait que il devrait y avoir normalement un espace politique justement pour des non-professionnels de la politique, que c'est troublant qu'on n'ait pas Beppe Grillo en France depuis longtemps. Donc, parce que précisément, il y a un tel désaveu chez beaucoup de Français, des professionnels de la politique, qu'ils sont attirés justement par des gens qui prétendent ne pas être des professionnels de la politique et venir d'ailleurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui explique sans doute la fascination, c'est d'abord que c'est le parler cru qui est le sien, qui fait que... Moi, je récuse ceux qui nous disent qu'Éric Zemmour... propose ses idées et que tout d'un coup des Français adhèrent. En vérité, il est devenu le porte-parole de sur des plateaux télé de tout un tas de choses qui circulent sur les réseaux sociaux depuis très longtemps. Malheureusement, la xénophobie et le racisme n'a pas attendu Éric Zemmour pour exister en France. Et donc, en réalité, ce qui explique la fascination qu'il peut créer, c'est que lui, il reprend publiquement sans vergogne un certain nombre d'éléments qui circulent abondamment sur les forums, sur les réseaux sociaux. Et sur le débat en particulier, j'en terminerai là, vous avez une bête de foire, deux bêtes de foire en vérité, deux bretteurs, deux gens qui sont des animateurs de plateau. Il faut pas oublier que Jean-Luc Mélenchon a été considéré unanimement comme le vainqueur du débat du premier tour à 6, là où il avait parlé des pudeurs de gazelle, etc. Il avait et c'est là qu'il avait augmenté considérablement ses intentions de vote. Donc on les gens, le public savait qu'on avait deux bretteurs qui étaient et donc on avait envie d'aller voir tout simplement comment ces deux bêtes de foire allaient s'écharper ou pas.
Et pour rebondir sur votre propos, Arnaud Mercier, je me permets de préciser qu'Éric Zemmour a été condamné en 2011 pour discrimination raciale, en 2018 et en 2020 pour provocation à la haine entre les musulmans. Souvent dans les médias, Éric Zemmour est comparé à Donald Trump, l'ancien président des États-Unis. Philippe Corcuff, est-ce que cette comparaison vous semble pertinente ?
Il y a cet espace, il y a un terreau idéologique qu'il incarne, qu'a su incarner Donald Trump aux États-Unis, dont je montre dans le livre qu'en France, qui se constitue en dynamique depuis le début des années 2000. Et donc, c'est vrai qu'il porte dans l'espace politique ça, avec une crédibilité autre. Arnaud Mercier a raison par rapport à la décrédibilisation des professionnels de la politique, quelqu'un qui apparaît hors du système, plus authentique. Et donc, il porte cet élément idéologique et il joue d'un paradoxe aussi, c'est que il est plus à droite que Marine Le Pen, c'est-à-dire qu'il a été condamné, vous l'avez dit, pour xénophobie à plusieurs reprises. Il est violemment sexiste, homophobe. Sur des thèmes que n'oserait pas Marine Le Pen. Et en même temps, en tant que journaliste du Figaro, homme médiatique, etc., l'époque Ruquier, il apparaît comme étant quelqu'un de plus respectable à droite. Et donc, en ayant vis-à-vis de l'électorat de droite et même des personnalités de droite une plus grande proximité. Donc ce paradoxe joue qui pourrait faire un effet Trump qui crée un lien entre des fractions radicalisées de la droite et l'extrême droite. La particularité sans doute, c'est quand dans le cadre français, il cultive plutôt l'image intellectuelle par rapport à l'anti-intellectualisme de Trump. Et le débat avec Michel Onfray, il y a quelques semaines, a joué un rôle important. Il a joué un important de crédibilisation intellectuelle de Zemmour, donc dans ce mouvement de boule de neige. Et en même temps, le débat avec Michel Onfray, comme Michel Onfray vient de la gauche, a joué un rôle pour aussi avoir un écho dans des secteurs de la gauche. Et donc ça joue aussi dans le phénomène actuel de prophétie autoréalisatrice.
Oui, je voudrais compléter par rapport au parallèle avec Trump. Trump a réussi cette performance de faire venir à lui l'alt-right, l'extrême droite américaine, et d'entrer à l'intérieur du Parti républicain, et j'allais dire de corrompre, hein, entre guillemets, le Parti républicain de l'intérieur. Même s'il y avait déjà le Tea Party, il y avait déjà des groupes à l'intérieur du Parti républicain. La vraie question, c'est que vont faire le parti Les Républicains ? Il n'est pas candidat, évidemment, à avoir l'investiture du parti Les Républicains, contrairement à Trump. Mais par contre, Éric Zemmour a dit, la semaine dernière, il a dit « Moi, je veux incarner le RPR, le bon vieux RPR du temps de Charles Pasqua, etc. » Donc, il est quand même en train de commencer à essayer de jouer la petite musique
« Je
suis quelqu'un de la droite
traditionnelle ». Arnaud Mercier, en quelques mots, il nous reste 30 secondes pour conclure cette émission. Quel camp électoral Éric Zemmour déstabilise-t-il le plus, selon vous ?
Les deux, que ce soit la droite ou le Rassemblement National. Je crois qu'il déstabilise des deux côtés parce que justement, il essaye d'être le pont entre ces deux, comme l'a très bien dit Philippe Corcuff. Et donc, Marine Le Pen est très déstabilisée, mais elle était déjà déstabilisée avant. Et les Républicains commencent à avoir des petits problèmes.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce décryptage. Arnaud Mercier, professeur en communication politique à l'université Paris-Panthéon-Assas, et Philippe Corcuff, maître de conférences en sciences politiques à Sciences Po Lyon. Très belle soirée à tous sur RFI.
Priorité santé.
Pour faire le point sur l'actualité médicale dans le monde, vous informer sur vos droits, pour vous éclairer sur la prévention, les traitements et les moyens d'y accéder, Priorité santé vous accueille tous les jours et reçoit des spécialistes à votre écoute. Pour participer, appelez-nous au 33 1 84 22 75 75 ou écrivez-nous à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sounou Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.